devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse et que sa grâce puisse être notre partage. C'est l'émission du Centre Biblique. Au micro, vous avez votre serviteur Danny Wichai. Nous allons poursuivre notre méditation dans l'Épître aux Éphésiens. Déjà, notre frère Jean-Pierre a pu partager avec vous les deux premiers chapitres. Aujourd'hui, nous abordons le troisième chapitre. Et nous allons commencer par le premier verset jusqu'à la fin. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce des dieux qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce des dieux qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse des dieux dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher des dieux avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Eh bien, cet épître aux Éphésiens nous montre le croyant assis dans les lieux célestes. Le racheté du Seigneur Jésus est assis avec lui, le Seigneur, dans les lieux célestes. Cet épître nous montre tout le plan que Dieu avait pour nous, les êtres humains qu'il a créés à son image, le plan qu'il avait dès l'éternité, dès avant tout le temps. Ses desseins d'amour, son plan d'excellence, son plan de bonheur pour nous, l'Église. Et les deux chapitres ayant développé ces choses-là, le chapitre 3 va être un chapitre où l'apôtre Paul parle de cette révélation de l'Église en tant qu'une nouveauté. L'Église n'est pas un sujet qu'on trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Il est évident que la nouvelle alliance également concerne Israël parce que Dieu n'a jamais conclu d'alliance avec l'Église. La deuxième alliance, selon Jérémie 31 au verset 31, concerne également le peuple d'Israël. Ce n'est que quand ce peuple a rejeté le Seigneur Jésus que Dieu ouvre une parenthèse dans laquelle il fait entrer les nations païennes pour former l'Église. Et cette église, dans ce sens-là, est une nouveauté. Mais non seulement une nouveauté, mais une exclusivité, une particularité de Christ. Comme il le dit dans Matthieu au chapitre 16, verset 17-18, quand il dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, mon assemblée. » Il s'agit de l'église du Seigneur Jésus. Et dans ce chapitre, l'apôtre Paul parle de révélation. La révélation qu'il a eue de l'Église. Oh, béni soit notre Dieu qui a voulu dévoiler ce mystère à l'apôtre Paul. En fait, c'est lui qui a reçu l'essentiel de la doctrine concernant l'Église. Et il parle de mystère. Il s'agit du mystère de Christ, l'Église. En fait, quand il dit mystère dans la Bible, un mystère, c'est quelque chose de caché, mais qui finit par être dévoilé, qui est déjà dévoilé au peuple des dieux. Alors, qu'est-ce qui nous est dévoilé ici, dans ce chapitre? C'est que les païens, c'est-à-dire les nations, toutes les nations du monde en dehors de juifs, forment, avec les juifs bien entendu, les juifs qui croient individuellement au Seigneur Jésus, pas les juifs en tant que peuple, en tant que nation, mais en tant que le collectif des individus qui croient au Seigneur Jésus. Donc, ces juifs, avec les païens, les gentils, des peuples issus des nations païennes qui croient en Jésus-Christ et qui constituent l'Église, forment un corps et participent à la même promesse. Participent et bénéficient de même promesse et de la même espérance. C'est au verset 6. Et ça, c'est une grande bénédiction, un grand privilège. Et Paul dit que c'était lui qui était chargé d'enseigner cela. Au verset 10, il peut dire « Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » La sagesse de Dieu si diversément variée, selon une autre version. En fait, Dieu a tout son cœur dans l'Église. On sait que sur cette terre, Dieu a deux peuples. Le peuple d'Israël qui est un peuple, son peuple terrestre, mais qui pour le moment est temporairement rejeté à cause de son incrédulité. Et il a aussi l'Église qui est son peuple céleste. Et cette Église pour laquelle il a sacrifié, il a livré son fils, son propre fils. Il n'a pas épargné. Cette église qui est, comme on voit dans les évangiles, cette perle de grand prix que le Seigneur a trouvée, eh bien, cette église est le chef-d'œuvre des dieux. Le verset 10 nous montre que c'est par le moyen de l'église que Dieu affiche, étale sa sagesse infiniment variée. Et il l'étale devant qui ? Devant les puissances, les principautés dans les lieux célestes. Vous savez que Satan et les esprits rebelles, les anges déchus, ont établi leur base dans les lieux célestes. C'est à partir de ce, on pourrait dire, ce quartier général dans les airs qu'ils commandent leurs actions maléfiques sur cette terre pour posséder les hommes, pour les manipuler, les utiliser pour accomplir leurs desseins de destruction de l'humanité. Alors Dieu a cette église sur cette terre qu'on pourrait appeler la poule aux œufs d'or pour Dieu. Et il veut que par l'église, ses ennemis dans les lieux célestes puissent connaître sa sagesse infiniment variée. Vous voyez que l'église, c'est pas quelque chose d'étriqué, quelque chose de minable. Non, c'est le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, ça veut dire de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a créé, eh bien, l'Église est une œuvre excellente. Et Dieu s'est vanté de la voir. Il s'est vanté de sa sagesse en montrant comment l'Église fonctionne, comment l'Église est bâtie, comment l'Église est composée. L'Église n'est pas un lieu de médiocrité, c'est un lieu d'excellence. Et Dieu peut alors étaler sa sagesse infiniment variée. Toute la création, tous les êtres vivants dans les lieux célestes d'abord, mais aussi sur cette terre, les rois, les autorités, les ennemis des dieux, en voyant comment l'Église fonctionne, peuvent constater que l'auteur d'une telle œuvre n'est peut-être que le plus sage. Gloire à Dieu ! Voyez, ce chapitre se termine par cette doxologie, cet hymne entonné pour la gloire des dieux. Au verset 20, Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut agir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, verset 21, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle de siècle. Amen. Je voudrais donc montrer que par l'Église, Dieu veut rendre un témoignage puissant de cette sagesse au monde. Voyez, le monde est caractérisé par la folie. La folie des grandeurs, la folie de richesse, la recherche effrénée de la gloire. Mais tout cela n'est que vanité. Dieu veut, à l'opposé de cela, montrer sa sagesse. Vous savez, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'Église, c'est le peuple sur cette terre qui craint Dieu. Et dans cette crainte de Dieu, il y a de la sagesse. Alors, c'est une révélation, c'est une nouveauté, c'est un mystère. Il n'y a pas de place pour la sagesse humaine. Les hommes sont subtils dans leur façon de concevoir et de penser. C'est Salomon qui dit dans Ecclésiaste que Dieu a créé l'homme droit, mais eux, ils ont cherché des subtilités. Ça veut dire qu'ils ont cherché des raisonnements. L'homme, par ses raisonnements, falsifie la vérité de Dieu et pervertit les voies de Dieu. Tout ce que Dieu a fait de parfait, l'homme l'a vicié, l'homme l'a déformé, l'homme l'a détruit. C'est pour cela que dans l'Église, il n'est pas normal qu'on amène la sagesse du monde. Dieu a frappé de folie, il a confondu la sagesse de ce monde par des choses qui sont faibles, qui sont viles. La puissance du monde a été, oui, confondue par ce que Dieu a estimé précieux pour lui, mais qui est faible aux yeux du monde. La philosophie n'est pas le moyen par lequel nous pouvons améliorer ni organiser l'Église. Malheureusement, nous voyons que de plus en plus dans l'Église, il y a cette recherche de la connaissance philosophique. Dans Colossiens au chapitre 2, au verset 8, il nous est donné cette mise en garde contre la philosophie. L'apôtre Paul pouvait écrire aux Thessaloniciens « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. » C'est une chose sérieuse. Dieu a décidé de détruire la sagesse des sages. La sagesse de ceux qui pensent qu'ils sont des philosophes, ils sont des visionnaires, selon la chair. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, voilà ce que l'apôtre écrivait, au verset 18 et jusqu'au verset 21. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance des dieux. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » C'est solennel, c'est sérieux. Vous êtes dans l'Église, vous êtes serviteur de Dieu dans l'Église. Ne recourez pas à la sagesse du monde. Ne recourez pas aux principes philosophiques de ce monde pour diriger l'Église. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de discernement. Dieu nous l'a donné en abondance. Depuis la Pentecôte, le jour où l'Église a été formée, concrètement formée sur cette terre, le Saint-Esprit est venu habiter chez les croyants. Il remplit l'Église et il donne de la sagesse. Mais la sagesse de Dieu est folie pour le monde, comme la sagesse du monde est folie pour Dieu. Chers frères et sœurs, recherchez cette sagesse de Dieu. Salomon, quand il a succédé à son père, David, l'une des premières choses qu'il a demandé à Dieu, si pas l'unique, c'est la sagesse. La sagesse! Dieu lui a donné la sagesse, qui était son besoin prioritaire, son besoin essentiel. Et la suite, c'est quoi? Il a eu la gloire et la richesse. Parce que, au commencement, il a recherché la sagesse. L'Église veut être riche. Aujourd'hui, c'est le temps de séduction de ces richesses du monde pour l'Église. Mais où est la sagesse? Où est la sagesse? La sagesse qui nous aide à vivre de manière sobre, de manière modérée, de manière disciplinée, avec maîtrise de soi, avec discernement, savoir s'auto-gouverner. Oh, frères et sœurs, recherchons cette sagesse. dans un contexte de grande pauvreté, comme on vit ici au Congo, le salut pour nos vies, nos familles, ne se retrouve pas dans la richesse. Non, le salut se retrouve dans la sagesse, c'est-à-dire dans les choix qu'on fait. Voyez, je donne un exemple. Un parent qui voudrait vivre de manière décente dans un contexte de pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire le choix de l'imitation de naissance. Vous risquez de me dire, mais c'est pas la voie de la foi, c'est pas une démarche de la foi. Oui, mais notez que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Si, ayant un revenu moyen, j'ai 10 enfants, comment pourrais-je les éduquer? Comment pourrais-je les nourrir? Comment pourrais-je les scolariser? Vous voyez, c'est un choix que j'ai fait, mais un mauvais choix qui m'amène de difficultés. Et ce choix est guidé par des exigences culturelles. Dans la culture africaine, oui, il faut avoir beaucoup d'enfants, c'est la richesse, oui. Mais attention, recherchez la sagesse. Je le répète, dans un contexte de grande pauvreté, comme ici au Congo, dans notre pays, il faut rechercher le salut, la délivrance de la misère par la sagesse. La sagesse. Une deuxième chose que je voudrais partager avec vous, en ce qui concerne l'Église, c'est que Dieu veut que dans l'Église, il y ait de la productivité. Vous voyez, par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, il y a une image qui nous est présentée de l'Église. Au chapitre 3, au verset 9, l'apôtre Paul parle du champ de Dieu. Il dit au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » À partir du verset 10 jusqu'à la fin, il nous présente une autre image de l'Église, une image de maison qu'il faut bâtir, ayant Christ pour fondement, une image architecturale. Mais au verset 9, quand il parle de champ de Dieu, le champ de Dieu d'abord, c'est le monde, hein, où nous allons travailler, évangéliser, témoigner pour Dieu. Mais dans un autre sens, là où nous travaillons pour Dieu, c'est l'Église et nous sommes son champ, nous sommes son ouvrage. L'Église est vue ici sous cet aspect agricole. Et quand on va dans Genèse au chapitre 2, il nous est présenté évidemment ce jardin d'Éden que Dieu avait cultivé. Voyez-vous? Eh bien, ceci nous montre une espèce de collaboration entre Dieu et nous. Vous savez, dans l'Église, l'Église c'est l'œuvre des dieux, mais il utilise des hommes. Nous ne devrions pas nous considérer comme des simples instruments. Un instrument n'a pas de volonté, c'est vrai. Une marionnette peut être quelque chose qu'on utilise de façon automatique. Mais un ouvrier, c'est différent. L'ouvrier a une volonté. Et quand le maître veut l'utiliser, il requiert sa volonté, la coopération de sa volonté. Donc Dieu ne nous a pas créé des automates. Il nous a créé des êtres dotés de volonté pour collaborer avec lui librement. Donc c'est pour cela que l'image d'ouvrier est importante. Mais il est dit co-ouvrier, ça veut dire ceux qui œuvrent avec Dieu. Ce n'est que quand on œuvre avec Dieu qu'on peut être productif. Il y a quelqu'un qui a dit, c'était un serviteur du Seigneur, mais à la fin de sa vie, il a dit, j'ai beaucoup travaillé pour Dieu, mais peu avec Dieu. Travailler beaucoup pour Dieu, oui, c'est une chose, mais travailler avec Dieu, c'en est une autre. Ce n'est que quand on travaille avec Dieu qu'on devient productif. Dans l'Église, on devrait voir cette productivité. Parce que quand on sème dans un jardin, on attend que il y ait germination. Alors, je voudrais rapidement lire dans Genèse, au chapitre 2, pour tirer quelques leçons à partir du verset 4. « Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre. » Aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais simplement dire que Dieu avait créé l'homme en dehors du jardin. Il a planté un jardin et ensuite il l'a amené l'homme dans le jardin. On est sauvé en dehors de l'église. Quand on a entendu l'évangile dans le monde, alors on croit et on est sauvé, on est ajouté à l'église. Et quand on est ajouté à l'église, vous voyez, on a besoin d'être comme un arbre planté dans un jardin et qui produit du fruit. Avant que la pluie ne tombe, il n'y avait pas d'arbre. Donc, avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'église. Il fallait que la Pentecôte, le Saint-Esprit vienne. Dans l'église, eh bien, c'est par l'action du Saint-Esprit que nous devenons productifs. Pourquoi est-ce que Dieu a planté des arbres, des arbustes? Au chapitre 1er, au verset 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure et d'herbes, porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences, et il en fut ainsi. Alors Dieu voulait que les arbres puissent produire des fruits. Donc je voudrais insister sur le fait que ici dans le jardin, il n'y avait pas de fleurs. Les arbres, peut-être avaient-ils des fleurs, parce que bon, pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait aussi cette floraison. Mais il y a omission par rapport aux fleurs. Ce sont des fruits, chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement, au lieu de fruits, on voit des fleurs, c'est-à-dire des apparences. Il n'y avait pas de fleurs mises en évidence ici, dans le texte du moins. Dans l'église, pas d'apparence. Ce sont des fruits, la réalité de vie. Aujourd'hui, c'est comme l'église de Laodicée, ce sont des grandes apparences. Chers frères et sœurs, sortons des apparences, portons de fruits. Nous ne pouvons pas produire du fruit. Dans Jean 15, quand le Seigneur dit « Je suis le vrai cep, vous êtes des sarments, tout sarment qui demeure à moi porte de fruits », eh bien c'est lui le Seigneur. Quand il vit en nous, alors on peut porter du fruit. Sortons des apparences. Il y a beaucoup de gens qui peuplent l'église, mais c'est que des apparences. Non, pas des fleurs. Nous avons besoin de fruits. Que Dieu nous donne de porter du fruit pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Quels sont les fruits que vous portez dans votre vie? Des fruits du péché ou des fruits de sainteté, de justice pour la gloire de Dieu? N'avez-vous que de l'apparence comme des fleurs, de la beauté extérieure? Dieu ne regarde pas à l'extérieur, à l'apparence, mais au cœur, comme il nous est dit dans le livre de 1 Samuel. Que Dieu vous donne d'être comme un arbre planté alors près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Pour la gloire de Dieu. Sagesse, productivité, pour la gloire de Dieu. En témoignage dans ce monde. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Car je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix. Quand dans mon cœur ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Je t'ouvre mon cœur. ma voix. Quand dans mon cœur plus rien ne va, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à la vie dans ce lieu saint, bien je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux.